Face à Duhamel, tous les jours dans BFM Story, Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir, Roselyne.
Vous êtes tout seul.
Oui, bah, de temps en temps, ça fait du bien dans un couple de se séparer. Bah, c'est les vacances, je vais le récupérer assez vite. Bonsoir, Roselyne. On va revenir, tiens, sur les propos que vous avez tenus ce week-end sur BFM TV et qui ont fait beaucoup de bruit. Je vous propose, pour ceux qui n'étaient pas devant leur télé ce week-end,
très rare,
bien entendu, on va réécouter.
Notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur vole du mal. C'est en résonance avec tout ce qui se passe sur la haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l'argent, tout ça. Finalement, c'est quelque chose de très incrusté dans la société française.
Voilà, vous étiez donc interrogé sur l'intérêt suscité par l'affaire Pierre Palmade. Vous en pensez quoi des propos de Roselyne, Alain Duhamel ?
Qui est une animosité française particulièrement accentuée vis-à-vis des riches et des super riches. Ça, c'est une évidence.
J'enfonce les portes ouvertes, c'est ce qui m'a semblé.
Ah, pas du tout. Vous l'avez dit avec beaucoup de verve. Et au fond, vous avez raison sur le fond. C'est vrai qu'en France, les milliardaires sont considérés comme des ogres avides. C'est vrai que le riche banal, le petit riche, est considéré à la limite comme un prédateur social. C'est vrai que les Français, c'est dans leur histoire. Je ne crois pas beaucoup à l'explication religieuse initiale, ni même à l'explication vraiment politique, mais en revanche, le mélange, la révolution et la culture. La culture française est littéralement innervée par la haine des riches. Balzac, Hugo, Zola, le théâtre de boulevard, le cinéma, c'est la haine des riches. Et donc, moi, là, j'abonde et j'insiste sur le fait que c'est vraiment français. Qu'aux États-Unis, on admire les milliardaires. En Allemagne, on respecte la richesse. En Italie, ils ont été amoureux pendant 20 ans de Berlusconi. En France...
On a aimé Bernard Tapie en France.
Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
Il a même fasciné la gauche.
On a aimé Bernard Tapie parce qu'il donnait le sentiment, un, d'être un riche qui ne respectait pas les règles, et deux, d'être un riche sorti du peuple et qui s'était fait contre les riches. Et même, quand on connaissait les histoires, au détriment des riches. Et je crois que c'est pour ça qu'il y avait une exception Tapie.
Roselyne Bachelot.
Oui, alors, je suis très, très intéressée par ce que mes propos ont soulevé, parce que j'ai expliqué...
Vous attendiez à ça, d'ailleurs, autant de
pas
réactions.
Pas du tout, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose...
On vous accuse de défendre Pierre Palmade, de défendre les excès. Moi, j'ai vu ça sur Twitter.
Non, c'est bien sûr.
Voilà, alors expliquez-vous.
C'est la phrase fameuse, le proverbe chinois, vous savez, quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt.
Alors, regardez ce qu'écrit Christine Boutin.
On est tout à fait dans...
Attendez, regardez ce qu'a écrit Christine Boutin sur son compte Twitter. Roselyne Bachelot, comment peux-tu dire de telles inepties ? Non, les Français n'ont pas la haine des riches, mais beaucoup de Français n'arrivent pas à boucler les fins de mois et souffrent. Je ne pensais pas que tu défendais la coke et oubliais les victimes.
Oui, bon,
c'est Christine Boutin.
Écoutez, je ne commande pas ce genre de propos qui ne sont pas intéressants parce qu'ils sont excessifs. Tout ce qui était excessif.
Mais vous n'étiez pas l'avocat de Pierre Palmade en disant ça.
Évidemment, non. L'émission, c'était qu'est-ce que l'affaire Palmade dit de nous ? Et c'est de faire un contexte. Oui, c'est d'ailleurs très curieux dans notre pays, Alain le soulevait justement, c'est qu'on est dans un pays où les politiques sociales sont les plus actives, où les inégalités sont les moins forte, et on est arrivé à ce prodige, cette réussite, c'est que l'homme le plus riche du monde était français. On devrait s'en réjouir d'arriver à tenir ainsi les deux bouts de la chaîne. On devrait s'en réjouir, mais je n'oublie pas que la devise de la République, celle que nous a confiée Camille Desmoulins, c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'on rêve...
Et que c'est mis dans le mauvais ordre, ça devrait être égalité, liberté et
peut-être
fraternité.
Et peut-être fraternité.
Dans les bons jours.
Mais c'est très intéressant quand Marine Tondelier, la responsable des Verts, dit « Je voudrais une société sans milliardaires ». On se demande ce que ça apporterait aux gens. Parce que si les infirmières n'arrivent pas à se loger, les infirmières de l'assistance publique n'arrivent pas à se loger dans Paris, Paris intramuros, c'est pas la faute des ultra-riches et des milliardaires. Non, c'est la faute, enfin la faute, d'ailleurs le terme est pas adéquat, c'est la faute de la classe sociale supérieure, des cadres, ou c'est la même chose sur le littoral où les jeunes ménages n'arrivent pas à s'installer parce que les résidences secondaires sont là. C'est très bien décrit dans le livre de Christophe Guillouis, Les Dépossédés, et il dit très justement qu'étant donné que l'ultra-gauche recrute maintenant massivement ses troupes dans justement ses cadres, et c'est là qu'elle a c'est là que l'ultra-gauche a le plus progressé. Attaquer les super-riches, c'est une manière de se mettre du côté du peuple et de s'excuser, finalement, d'être ce qu'ils sont.
Mais alors, c'est quoi? C'est quand même assez démagogique, ces attaques contre les riches. D'ailleurs, je crois que c'est la une de l'Express cette semaine. Mais la démagogie anti-milliardaire.
Ce qui est intéressant et intriguant, peut-être inquiétant, j'en sais rien, mais en tout cas sûrement intéressant et intriguant, c'est pourquoi les Français ont-ils, vis-à-vis des riches, un comportement différent des autres pays ? Pourquoi cette particularité ? Bon, moi, je pense que c'est vraiment un mélange de notre culture au sens littéraire, hein, notre culture et puis de notre expérience chez... Je suis persuadé que chez deux Français sur trois, il y a un sans-culotte qui sommeille. Et que ça se retrouve dans ces cas-là. Ce sont des réactions instinctives, ce ne sont pas des raisonnements. Quand on dit un pays sans milliardaires, tout le monde sait très bien qu'un pays sans milliardaires, même dans les pays communistes, il y a des milliardaires. En Chine, il y a des milliardaires à l'appel qui se revendiquent communistes.
Proverbe chinois, Alain, quand le riche maigrit, le pauvre meurt. Oui. Si on est dans les proverbes chinois.
On a vraiment quelque chose de spécial dans ce domaine. Et si je disais « mais » au début en disant « oui, mais » à Roselyne, c'est parce que je pense que ça n'a rien à voir avec l'histoire Palmade.
Alors pourquoi ?
Je pense que l'histoire Palmade, ce n'est pas une histoire de riche ou de pauvre. D'ailleurs, je ne crois pas que Palmade soit particulièrement riche, ni un symbole de richesse. Je crois que Palmade, c'est la demi-star qui se fissure.
C'est la chute,
et qui
en
se
fait.
Décompose, voilà. C'est la chute d'une célébrité ou d'une demi-célébrité.
Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui est révélateur dans cette affaire, effectivement ? On aime un peu, d'une façon un peu... un peu dans l'envoyeurisme, voir chuter ceux qui ont tout, en fait.
Voilà.
L'ascension et la chute.
S'il fallait mettre un élément de contexte à cette polémique absurde, ce qu'effectivement, j'ai jamais défendu, ni Pierre Malman, ni l'usage du chemsex, ni de la coke, au contraire, tout dans ma vie m'a amené à combattre, en tant que ministre de la Santé et dans bien d'autres fonctions, de combattre ces comportements. Donc vraiment, c'est un procès, j'allais dire un procès à la con, mais comme je suis avec des gens distingués, je vais dire c'est un procès absurde. L'émission c'était de dégager des éléments de contexte sur la société française, et effectivement c'est un élément qui est spécifique à la société française. Ce sont des raisons historiques qui ont été très bien définies par Alain, et ce sont des raisons conjoncturelles. Quand on voit dans le vote des électeurs que la population des cadres qui votent pour l'ultra-gauche est de 28%, alors qu'il n'est que de 11% au Rassemblement National, et que chez les ouvriers, c'est 18% simplement qui votent pour l'ultra-gauche et 45% pour le Rassemblement National, on comprend qu'il y a des éléments spécifiques, des éléments de contexte qui sont particuliers, qui sont... Est-ce qu'ils sont structurels ou conjoncturels ? Je ne sais pas. Mais qui explique aussi certains discours démagogiques, pour reprendre le titre de l'Express.
Oui, mais alors ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a mis au moins 20 ans, et peut-être 30, à accepter l'idée que les ouvriers qui votaient classiquement d'abord pour le Parti communiste étaient en train de voter en direction de ce qui, à l'époque, s'appelait le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. Les spécialistes les plus chevronnés disaient « Non, c'est pas possible, il y a un petit mouvement, mais ça n'a pas de fond. » Là, on s'aperçoit que c'est... une classe sociale entière, qui représente quand même encore un peu plus de 20% des Français, qui a basculé d'un côté à l'autre. Et ça n'est certainement pas les milliardaires qui sont pour quelque chose. C'est pas ça du tout qui les a fait changer d'avis. Ce qui les a fait, je crois, changer d'avis, c'est le sentiment que personne ne les comprenait plus pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils vivent.
Oui, mais Dans la haine des riches, il y a quand même des éléments factuels. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Il y a un écart, on a l'impression qu'il y a une partition et qu'aujourd'hui...
Ça varie historiquement.
Enfin, il y a quand même quelques milliardaires qui sont totalement hors sol, ne vivant pas dans le même monde que les autres. Et en plus, on apprend que ces milliardaires, pour certains, font tout pour échapper à l'impôt, parce qu'ils ont les bons avocats fiscalistes. Ça alimente aussi quand même la critique.
Je comprends très bien qu'on discute calmement de se dire, tiens, la tranche maximale de l'impôt sur le revenu est à 45%. Est-ce que dans des circonstances difficiles, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Je pose la question.
Sur le revenu ou sur le capital ?
Sur le revenu, on peut se poser la question de l'imposition des super riches. On s'est posé la question avec l'impôt global de 15%, on peut dire qu'il est insuffisant. Mais on ne parle pas d'une discussion, je dirais, raisonnée. On parle là d'un sentiment passionné de haine. Oui. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Ensuite, on peut discuter raisonnablement de ce qu'il faudrait faire pour le pays. Oui. Et peut-être que la bonne solution, c'est de plus taxer les riches.
Mais c'est les mauvais comportements qui sont associés à certains riches qui sont dénoncés. Le mauvais comportement, c'est-à-dire échapper à la fiscalité.
Il y a deux choses. D'une part, il y a les passions françaises. La France, en matière politique, en matière sociale, est un pays de passions. Ça a toujours été comme
certains ça. Certains même dit des passions tristes.
Ça nous a différenciés là encore des autres. Mais ce que vous dites et qui est tout à fait vrai, que il y a des comportements qui exaspèrent. Bon, le fait que les plus riches sont ceux qui échappent le mieux à l'impôt, c'est vrai que c'est une aberration et que c'est une injustice et que c'est, je dirais, d'une certaine
dans
manière
dans un pays où on paye beaucoup d'impôts.
C'est d'une certaine manière une provocation.
Ça semble injuste.
C'est d'une certaine manière une provocation. Mais ce qu'on dit maintenant et qui est vrai, c'est exactement ce qu'on dit. À la fin du 19e siècle, dans les Rougon-Macquart, par exemple, c'était la même idée. Le super riche est un personnage considéré en France comme un malfaisant chronique, comme une espèce d'ogre vorace qui se développe au détriment de tous les autres. Alors qu'il y a beaucoup de pays...
Ce sont quand même les 10% les plus riches qui payent 80% de l'impôt sur le revenu, quand même.
Oui, mais ça, c'est les 10% les plus riches en revenu.
Mais sur le capital...
En revanche, les 0,1%
ce qui est dénoncé, c'est l'argent... L'argent qui dort, enfin l'argent qui... Des actions, non. C'est l'argent... Pas l'argent du travail, mais l'argent placé.
C'est l'argent qui rutile.
Ou l'argent de la spéculation.
Oui, non, c'est l'argent qui rutile.
C'est l'argent de la spéculation.
Non, mais les gens ont un sentiment d'injustice et même d'incompréhension. Mais ce qui est... Je répète, j'ai l'air d'avoir une marotte. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que chez nous, on réagit comme ça, alors que chez nos voisins qui ont l'équivalent. Hein. Bon, il se trouve qu'on a le premier milliardaire du monde en ce moment, mais ça n'est pas classique.
C'est plus le cas. Elon Musk est repassé devant. Ça dépend des semaines. Bien sûr.
Mais aux États-Unis...
Enfin, il est très riche.
Et voilà.
Aux États-Unis où il y a beaucoup de milliardaires, ou en Chine où il y a beaucoup de milliardaires, bien que ce soit un pays communiste. Beaucoup de milliardaires. Bon,
ceci explique cela, peut-être.
Ils sont défendus par personne. Parce que même la droite ne vole pas au secours de Bernard Arnault tellement.
Elle ne le fait pas parce que elle par opportunisme, parce qu'elle sait que ce serait impopulaire.
Voilà.
Oui, non, mais je pense qu'il y a chez les Républicains beaucoup plus d'admirateurs de Bernard Arnault qu'il n'y en a chez les Mélenchonistes.
Pour être parfaitement clair, je n'ai jamais défendu une chose pareille, que vraiment je voudrais que les riches s'incrusent dans la société française, qu'ils gagnent de plus en plus d'argent. J'ai voulu
faire un élément de contact. Je souhaite qu'il y en ait plus de riches et plus de Bernard Arnault.
Non, puis de toute façon, d'avoir un certain nombre, je ne dis pas que ça, évidemment, un certain nombre de super riches, pour un pays, c'est plutôt un atout par rapport à ses voisins.
Mais être riche, à partir de combien? Parce que François Hollande avait dit 4 000 euros. Et Dieu sait que ça avait provoqué à l'époque la polémique.
Et je me rappelle même très bien qu'il y avait une polémique pour savoir si c'était pour une personne ou pour un couple.
Voilà, on est riche à partir de combien, Rosine Bachelot? On n'a jamais su le définir, vraiment.
On ne parle pas des riches au sens classique du terme.
Il y a les petits riches et les grands riches.
Des super riches, là, ce sont des gens qui brassent des fortunes à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est même inimaginable. comptables, c'est des gens qui ont des budgets parfois supérieurs à des budgets.
Mais Hollande, il avait dit 4 000 euros.
Oui, mais il y a d'un côté, je veux dire, des riches, des cadres supérieurs qui, effectivement, se sont constitués un patrimoine. Ils ont une maison à la campagne, ils ont un compte en banque, ils ont des assurances, etc.
Il y a des hauts fonctionnaires qui ont des salaires supérieurs à 15 000 euros par mois.
Mais ça n'est rien du tout par rapport à ceux qui sont les vrais riches. Quand on dit les riches, il y a des strates tellement différentes. Il y a des riches planétaires et il y a des riches cantonaux.
Et puis on est aussi riche parfois d'un patrimoine qu'on hérite.
Et si vous vous rappelez, parce que vous étiez déjà né avant la Révolution,
oui, bien sûr.
Qui étaient les riches qu'on
quelle Révolution
qui était, qui était
la première
89, la grande. qui étaient les riches qu'on détestait? C'était à l'époque, quand on habitait la campagne, Paul Châtelain, le notaire. Et quand on habitait les villes, pas le grand prévôt des marchands, c'était le boulanger. C'était le notaire et le boulanger.
Et aujourd'hui, c'est qui alors?
C'était des petits riches. Oui. Alors que, enfin, des relativement.
Aujourd'hui, c'est le youtubeur qui est à Dubaï.
Aujourd'hui, non.
En réalité,
la nouveauté, c'est le développement des inégalités parmi les super riches.
Merci à tous les deux.